Pouvez-vous nous mettre à jour en nous parlant de l'abandon des poursuites ainsi que de la réaction de la Ligue à ce sujet?
Oui, bien disons que ça fait suite à toute une série de démarches qui durent depuis en fait plus d'une décennie de la Ligue des droits et libertés pour mettre fin à des règlements municipaux, dont P6, qui briment la liberté d'expression et qui sont utilisés de manière arbitraire par les policiers pour cibler des groupes de manifestants particuliers. Alors, ce qui est arrivé est un exemple de plus de ces abus, parce que 500 personnes ont été arrêtées, elles ont été détenues de longues heures, menottées, fichées, photographiées, privées d'eau. Donc, il n'y a pas juste eu la remise d'un constat, mais aussi des conditions de détention arbitraires et abusives. Et au bout du compte, les accusations sont tombées parce que la ville manquait de preuves, en fait, pour maintenir les accusations quand les manifestants ont refusé de payer l'amende. Alors, ça démontre qu'il n'y avait pas de motif réel d'arrestation, donc c'était une arrestation abusive.
La ville aurait-elle pu trouver des preuves ou bien est-ce que c'était vraiment impossible à faire?
Bien sûr, il faudrait le demander à la ville, mais notre expérience, et ça c'est une expérience qui se répète, c'est que quand c'est pas la première manifestation du genre où soit les accusations sont abandonnées ou alors quand ça va en cours, les accusés sont acquittés. Alors, il y a plusieurs procès, par exemple, un qui a eu lieu en 2002 où j'ai moi-même témoigné, où le juge a rejeté les accusations. Si on prend l'exemple du G20 à Toronto, presque toutes les accusations sont tombées. Et par la suite, il y a un rapport de l'Ombudsman de l'Ontario, M. Marin, à l'effet que les arrestations, en fait, avaient été abusives, c'est-à-dire que les policiers avaient abusé de la loi, donc les arrestations étaient illégales. Alors, ça revient constamment. Il y a eu un accusé à Québec récemment qui a poursuivi la ville pour ses conditions de détention, c'est il y a quelques jours, et le juge ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'arrestation, c'était pas ça l'objet du procès, mais le plaignant, la personne arrêtée, allait en cour pour demander des compensations pour les conditions de détention, et le juge a très bien dit que c'était injustifié de procéder de cette manière-là, de détenir des personnes pendant des heures, les menotter, les photographier pour une infraction à un règlement municipal, même s'il s'avérait que l'infraction avait été commise.
À partir de cette étape, quelles actions seront possibles contre les policiers pour les arrestations et pour les conditions de détention?
Bien, disons qu'il y a plusieurs causes devant les tribunaux qui concernent P6 et aussi le Code de la sécurité routière qui est utilisé de la même manière que P6 pour arrêter des manifestants. Alors, premièrement, dans le cas de ces manifestants-là, ils ont eux aussi une poursuite au civil contre la ville et on peut présumer que le fait que la ville ait abandonné les poursuites et aussi le jugement de Québec, du juge de Québec qui dit que cette manière-là de procéder avec des détentions, etc., avec des manifestants est abusive, on peut imaginer que cela va aider la cause de ceux qui ont des poursuites civiles à Montréal pour les conditions de pour leur arrestation et leurs conditions de détention. Par ailleurs, il y a aussi des plaintes de profilage, parce que nous, on maintient que les policiers ne traitent pas toutes les manifestations et les manifestants de la même manière. Ce sont des groupes particuliers qui sont plus politiques, qui sont identifiés par qui sont ciblés. Donc, il y a du profilage politique. Et il y a aussi, donc, il y a deux plaintes présentement de profilage politique. Une à Québec qui est pilotée par la section de la Ligue à Québec et une à Montréal. Et il y a aussi le fait que il y a des contestations de ces règlements-là. Okay? Il y a plusieurs personnes qui contestent la constitutionnalité de P6. Nous, à la Ligue, on participe à une démarche qui conteste la constitutionnalité de l'article 500.1 du Code de la sécurité routière. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ces règlements puis de l'utilisation qui en est faite.
Par quel moyen la Ligue cible-t-elle les règlements?
Bien, c'est-à-dire que le principal champ d'intervention de la Ligue est au politique, dans le sens d'intervenir dans l'espace public pour sensibiliser la population, mais aussi auprès des élus, parce qu'on parle beaucoup des policiers, mais les policiers agissent en fonction des pouvoirs qu'on leur a donnés. Or, ces règlements-là, ce sont les élus qui les ont votés, et donc ils sont responsables de l'utilisation qui en est faite. Et il est clair que la classe politique, en fait, on l'a vu pendant la grève étudiante où le gouvernement libéral avait tout un discours qui justifiait la répression politique des étudiants. Et au niveau municipal, le parti au pouvoir non plus ne veut pas revenir sur le règlement P6. Donc, il y a une responsabilité politique pour ces règlements-là. Donc, on intervient à ce niveau-là auprès des élus pour leur rappeler leurs responsabilités. Puis aussi, à l'occasion, comme on le fait avec l'article 500.1, on va intervenir dans l'arène judiciaire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur l'écosystème de la justice, la police, la ville et la politique?
Il y a présentement une criminalisation, ce qu'on appelle nous une criminalisation de la protestation sociale. Dans l'époque récente, ça s'est particulièrement développé après le sommet de 1999 à Seattle, les premières grandes manifestations altermondialistes. Okay? Les forces policières des différents pays ont développé des stratégies pour étouffer cette contestation-là. On remarque que les pratiques policières sont d'un pays à l'autre sont très semblables. Il y a une affaire qu'on appelle le protocole de Miami, parce qu'à une manifestation à Miami, il est ressorti une sorte de mode d'opération des forces policières dans ce genre de circonstances. Alors, un des aspects, c'est la criminalisation ou le discrédit qui est porté sur les manifestants dans l'opinion publique par les autorités politiques. On l'a vu avant le G20, okay, de la part du gouvernement fédéral. On a les discours du gouvernement conservateur qui associe les environnementalistes et les altermondialistes à des menaces à la sécurité nationale. Donc, il y a tout un discours qui vise à disqualifier et criminaliser ces mouvements de protestation. Et ça se traduit au niveau policier par les arrestations et tout ça lors des événements comme ceux-là.
Dernièrement, en revenant à la décision de faire tomber les cas, la Ligue constate donc à la fois sa satisfaction et son insatisfaction.
On est heureux pour les manifestants que les poursuites aient été abandonnées, parce qu'il faut tenir compte aussi que ça remonte à 2012. Donc, les personnes qui sont dans des situations comme ça, c'est quelque chose qui, elles traînent pendant des mois et des années. Donc, c'est un stress et tout ça. Alors, donc, que cette étape-là soit finie pour elle, tant mieux. Mais le fait que les poursuites soient abandonnées, ça ne répare pas les torts qui ont été commis, parce qu'elles ont été arrêtées sans justification, avec toutes les conditions de l'arrestation, etc. Oui. Puis avec une cause pendante qui traîne pendant 2 ans. Puis c'est pas juste en laissant tomber les accusations que ça règle le problème.